Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes dans ces explications suivant les pères de l'Église de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 13, verset 31. Sur le polycopier qui contient les commentaires des chapitres 11 à 15 de Saint-Luc, à la page 29. Donc voyons les versets 31 à 35 du chapitre 13 de Saint-Luc. Le jour même, quelques-uns des pharisiens s'approchèrent et dirent à Jésus, « Allez-vous-en et partez d'ici, car Hérode veut vous tuer. » Et Jésus leur dit, « Allez et dites à ce renard, voici que je chasse les démons. » Que j'opère des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, tout sera consommé pour moi. Cependant, il faut que je marche aujourd'hui et demain, le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme un oiseau rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée ouverte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas peur de dire les choses en face. On voit bien que dans certains cas, il est capable d'utiliser des termes très forts. De traiter Hérode de renard, c'est pas très gentil. Et le bon Dieu sait ce qu'il fait. Alors les pères se sont posés la question de savoir pourquoi le Christ traitait Hérode de renard. Bien, c'est à cause du caractère trompeur d'Hérode. Hérode est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance, il est toujours en train de préparer des stratagèmes. Et le renard représente parfaitement ce genre d'action, parce que le renard est en effet un animal plein d'astuces. Il se cache dans les fossés, qui a mauvaise odeur, qui ne marche jamais droit, ce qui représente bien les hérétiques dont Hérode est le type, qui veut détruire le Christ, c'est-à-dire l'humilité de la foi chrétienne dans le cœur des croyants. Donc, le renard qui prépare ses embuscades pour attraper sa proie représente l'hérétique qui se comporte littéralement comme un animal parce qu'il essaye de changer la doctrine de l'Église. L'hérétique, c'est celui qui nie un dogme de la foi. N'oublions pas qu'il suffit de nier, faire de façon pertinace, un seul dogme de la foi pour déjà être un hérétique. Il n'y a pas besoin de nier tous les dogmes. Et en fait, celui qui nie un des dogmes déjà est tombé dans l'hérésie, parce que tous les dogmes de foi sont unis comme les doigts d'une même main. Donc il n'est pas possible, ça qu'il faut arriver à comprendre, de nier un dogme de la foi catholique sans en fait implicitement nier tous les autres. Parce que si je dis que notre Seigneur Jésus-Christ est un menteur sur un point de la doctrine, eh bien, en agissant ainsi, en disant ainsi, je prétendant que notre Seigneur Jésus-Christ est un menteur, je détruis sa divinité. Et donc on peut détruire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur simplement en niant un dogme, comme en niant une demi-douzaine, c'est la même chose. Dans les deux cas, je prétends que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mystiquement, dit saint Augustin, dans le corps du Christ, Quelle église? L'église est le corps mystique du Christ. Les démons sont chassés quand les gentils abandonnent leurs superstitions et croient en lui. Et donc ce troisième jour, c'est verset 32, notre Seigneur va parler du troisième jour. Je chasse les démons et j'opère des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, tout sera consommé en moi. Le troisième jour représente la résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ est resté 3 jours au tombeau, puis exactement le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ceux qui ont renoncé aux démons et à ce monde jusqu'à ce dernier jour verront la perfection de l'Église dans la plénitude angélique et l'immortalité du corps. Donc ceux qui croient au troisième jour sont ceux qui croient en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Un catholique, c'est celui qui croit que notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement, dans son humanité, ressuscité le troisième jour, le jour de Pâques. Tant qu'il y avait de la vertu en vous, vous étiez mon temple, disent les pères. Mais une fois que vous avez fait une caverne de voleurs, que vous en avez fait une caverne de voleurs, ce n'était plus ma maison, mais la vôtre. Cette maison représente l'entière nation juive. Ô maison de Jacob, bénissez le Seigneur, car c'est lui qui vous gouverne et vous a délivré de la main de vos ennemis. Rappelez-vous cet avertissement à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons transformé notre âme en une caverne de voleurs, une caverne de voleurs. Les voleurs représentent les démons. Donc à partir du moment où je laisse les démons habiter dans mon âme, ipso facto, ma maison, mon âme devient une caverne de voleurs. Caverne de voleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis plus maître chez moi et que le démon va prendre contrôle de mon intelligence et donc me faire enseigner et mettre dans mon intelligence des refus d'obtempérer à la loi du bon Dieu. Alors, il y a cette phrase magnifique que j'aime beaucoup. Notre Seigneur Jésus-Christ se compare à une poule qui rassemble sa couvée sous ses ailes. Les pères de l'Église font remarquer qu'on voit tout de suite quand une poule est mère, quand elle a des petits, ça se voit tout de suite parce qu'elle est toujours entourée de ses petits qui piaillent de tous les côtés. Dès qu'il y a le moindre en danger, elle va écarter ses ailes et tous les petits poussins vont venir chercher protection sous les ailes de la mère. Eh bien, cela représente notre Seigneur Jésus-Christ qui protège ses fidèles et ça représente aussi l'Église. Donc cette poule qui rassemble sa couvée sous ses ailes, combien de fois ai-je voulu y rassembler tes enfants, dit notre Seigneur, comme un oiseau, une poule qui rassemble sa couvée sous ses ailes, tu n'as pas voulu. Notre Seigneur Jésus-Christ ne demande qu'une seule chose, c'est que nous venions sous ses ailes. Les ailes de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église. L'Église étant son corps mystique du Christ, le corps mystique du Christ, et les ailes du Christ sont représentées par les ailes de l'Église. L'Église protège les fidèles comme une poule protège ses enfants. Mais il faut bien méditer sur cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, « Tu n'as pas voulu ». Il est venu chez les siens, mais les siens n'ont pas voulu. Il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie quand il est venu au monde. Et donc les gens, de même que les gens ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, autant notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas que les Juifs qui ont refusé dans leur immense majorité notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons la même chose à chaque fois que nous commettons une faute grave. Quand on commet une faute grave, on refuse d'aller se mettre à l'abri du démon, loin des flèches du démon, sous les ailes de notre mère, la Sainte Église, et on prétend être capable de se protéger tout seul, comme un grand, et puis évidemment on est percé à ce moment-là par les flèches du démon. Passons à la page 30, au chapitre 14 de Saint Luc. Voyons d'abord les 6 premiers versets du chapitre 14. Il arriva que Jésus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y manger du pain. Et ceux-ci l'observaient, et voici qu'un homme hydropique était devant lui. Et Jésus, prenant la parole, dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis de guérir le jour du sabbat ? Mais ils gardèrent le silence. Alors, lui, prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. Puis s'adressant à eux, il dit, « Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Il ne pouvait rien répondre à cela. On voit là l'hypocrisie des docteurs juifs, des pharisiens, qui voulaient suivre à la lettre la loi, étaient capable de comprendre l'esprit de la loi. Imaginez qu'un de ces pharisiens ait été lui-même malade, et une paralysie par exemple, eh bien le pharisien, tout pharisien qu'il était, aurait bien été content d'être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, même y compris si cette guérison avait eu lieu un jour de sabbat. Mais là, il se scandalise de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui vit dans le péché est incapable de voir, de sentir la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les pères expliquent que cet homme hydropique est semblable à celui qui est attiré vers le bas par un torrent débordant de plaisirs charnels. Car cette maladie tient son nom des humeurs liquides. L'hydropisie, c'était une maladie qui faisait que le corps se remplissait d'eau. Des œdèmes de sérum se formaient sous la peau, partout sur le corps, et enlaidissaient complètement le physique de cette personne. Et donc l'hydropie représente tous ceux qui sont... L'hydropisie, pardon, je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'hydropisie, représente les plaisirs charnels, les péchés contre le sixième et le neuvième commandement. Pourquoi ? Parce que de même qu'un homme hydropique va devenir de plus en plus lourd à cause du poids de l'eau qu'il va spontanément former entre ses muscles et la peau, sa peau, eh bien de la même façon... lorsqu'on vit dans le péché, on est attiré par le poids du péché vers le bas. Plus on est lourd, plus on a mal, on a des difficultés pour marcher. Donc un homme qui vit dans le péché, il est entraîné vers le bas constamment par le démon, et donc il peut pas s'envoler, il peut pas marcher, il peut rien faire, il peut pas s'élever comme un oiseau, encore une fois, qui est attaché par un fil à sa patte, il peut pas voler. Parce que le fil l'empêche de voler. Et bien c'est la même chose pour nous, lorsque nous sommes dans le péché, notre âme est lourde, lourde du poids du péché, est incapable de s'élever vers les choses spirituelles. Donc selon saint Augustin, l'hydropique représente également l'avare. Voilà ce que dit saint Augustin. De même que plus un hydropique augmente la quantité de liquide dans son organisme, plus il a soif. Ainsi, plus l'avare augmente ses richesses qu'il emploie mal, plus il en désire. Donc, avarice et hydropisie se ressemblent donc. La maladie se soigne en s'abstenant de boire, et l'avarice se corrige par l'abstinence, la mortification, la continence qui viennent d'habitudes vertueuses. C'est-à-dire que, lorsque nous avons des difficultés morales, avec des tentations, des chutes dans un domaine particulier de la morale, il faut pratiquer la vertu contraire. Donc, si j'ai des problèmes de gourmandise, par exemple, en ayant du mal à contrôler mon appétit, la nourriture ingérée, eh bien, je vais faire pénitence avec la vertu de tempérance. Bon, si au contraire, j'ai d'autres difficultés, je vais pratiquer la vertu qui s'oppose à la difficulté que j'ai. Ensuite, il y a un commentaire du verset 5. Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, n'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'âne et le bœuf symbolisent le sage et le fou. Le juif oppressé par le poids de la loi et le gentil qui ne se soumet plus à la raison. Car le Seigneur sauve du gouffre de la concupiscence ceux qui y sont tombés. C'est pour ça que donc, l'âne et le bœuf qui tombent dans un puits représentent le juif et le gentil, c'est-à-dire le non-juif, qui refuse de se soumettre à la raison, et donc qui tombe dans le gouffre sans fond, en quelque sorte, des trois concupiscences. La concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil, et la concupiscence de la chair. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui dit que même le jour du sabbat, on peut venir retirer le bœuf ou l'âne qui sont tombés dans un puits, ça veut dire que, quel que soit le jour, on peut toujours venir vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers son représentant le prêtre, et obtenir le pardon de ses péchés. Et lorsque le prêtre prononce sur le pécheur la formule d'absolution, vos péchés sont pardonnés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme quand le propriétaire de l'âme ou du bœuf qui est tombé dans le puits attrape le bœuf et l'âne, et le tire par une corde, le tire hors du puits pour lui rendre la liberté. Voyons les versets 7 à 11 de Saint-Luc au chapitre 14, en bas de la page 30. Jésus dit aux invités cette parabole, considérant comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, quand vous serez invités à des noces, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que vous, et que celui qui vous a convié, vous et lui ne viennent vous dire « Cédez la place à celui-ci » et qu'alors vous n'alliez en rougissant occuper la dernière place. Mais quand vous aurez été invité, une faute d'orthographe là, qu'il faut que je corrige, Allez, mettez-vous à la dernière place afin que celui qui vous a invité sera venu, que lorsque celui qui vous a invité sera venu, il vous dise, mon ami, montez plus haut. Et alors, ce sera une gloire pour vous devant ceux qui seront à table avec vous, car quiconque s'élève sera humilié, quiconque s'humilie sera élevé. La morale de cette parabole est très claire. Ce qui empêche la montée vers le bon Dieu, c'est l'orgueil. Et au contraire, ce qui facilite cette montée vers le bon Dieu, c'est la vertu d'humilité. Donc, c'est ce que disent les pères, vous avez ça à la page 31. L'humilité est enseignée quand on mortifie le désir de la place d'honneur au cours de la fête. Tentation d'orgueil, on pratique la vertu opposée. La vertu opposée au vice de l'orgueil, c'est la vertu d'humilité. En fait, c'est souvent la vertu d'obéissance. C'est l'obéissance qui mène à l'humilité. Il y a un lien entre l'obéissance et l'humilité. Lorsqu'une personne, un enfant n'est pas obéissant, n'apprend pas à être obéissant, il va tomber dans l'orgueil très vite. Et l'orgueil va être la porte ouverte après toute une série de péchés. C'est pour cela que quelqu'un qui n'a jamais appris à obéir, un enfant qui n'a jamais appris à obéir, va tomber dans l'orgueil et donc sera incapable de commander parce qu'un orgueilleux n'est pas capable de commander. Il va utiliser son autorité à mauvais escient et sera incapable de diriger correctement les gens dont il a la charge. Il faut bien expliquer ça aux enfants. Un enfant qui n'apprend pas à obéir, qui refuse d'apprendre à obéir, deviendra une lavette une fois qu'il sera un adulte. Il sera incapable de commander parce qu'il n'a jamais appris à obéir. Et c'est le drame du monde moderne. J'en ai souvent parlé en sermon. C'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pour ça que l'homme moderne est en révolte constante devant Dieu, et est en révolte constante devant Dieu parce que l'homme moderne n'a jamais appris à obéir. Dans les familles, on n'apprend plus aux enfants à obéir. C'est tout juste si l'enfant n'est pas tenu comme un roi dans la famille, il peut faire absolument ce qu'il veut, et si les parents ont le malheur de faire la moindre remarque, l'enfant peut porter plainte contre ses parents, littéralement, quitte à être sorti de la famille. Oui, donc il faut mettre en valeur cette vertu, vertu d'obéissance. C'est la vertu clé dans les familles. Je suis absolument sidéré de voir comment beaucoup de parents, même dans les familles catholiques, ont parfois peur d'utiliser leur autorité. Ils ont peur des réactions. Ils ont peur d'être traités de monstres sanguinaires, de maintenir leurs enfants dans l'esclavage, justement parce qu'ils exercent leur autorité. Malheur à celui qui refuse d'exercer son autorité. Quelque chose qu'il faut bien comprendre. Un des péchés les plus communs des parents catholiques aujourd'hui, c'est de refuser d'utiliser son autorité qui nous a été donnée par Dieu. Quand un parent refuse d'utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée pour élever ses enfants, c'est un refus de remplir son devoir d'État, tout simplement. Et donc l'enfant va se damner, ce sera la faute des parents, parce que les parents n'ont jamais exercé leur autorité. Donc il faut apprendre aux enfants. J'ai vu ça dans un tas de familles où l'enfant peut pratiquement faire ce qu'il veut, parce que les parents ont peur d'exercer leur autorité. Et ils ne se rendent pas compte qu'en refusant d'utiliser leur autorité, qui leur a été donnée par Dieu, ils sont mariés pour ça, Dieu leur donne une autorité sur leur progéniture, en refusant d'utiliser cette autorité, ils détruisent l'enfant lui-même. Rappelez-vous ce que disaient les anciens, lorsqu'une maman disait à son enfant « je t'aime plus », ça veut dire que quand une maman disait à son enfant « tu peux faire ce que tu veux », ça m'est complètement égal, ça voulait dire que la maman n'aimait plus son enfant, il fallait qu'expliquer ça aux enfants. Le jour où ta mère te dira, c'est ce que doit dire la maman, le jour où ta maman te dira « tu peux faire ce que tu veux, ça m'est complètement égal », ce jour-là, sache que je sais de t'aimer. Et c'est précisément parce que je t'aime que je t'empêche de faire ce que tu veux. Un jour, tu seras un adulte et tu devras former tes enfants. Et tu seras incapable de former tes enfants si tu n'apprends pas maintenant comme enfant à obéir à ta maman ou à ton papa. Donc, c'est le Christ qui organise l'ordre du placement des convives. Donc, on revient à cette parabole. Donc, des invités à la parabole, des invités qui vont se placer à la place d'honneur tout de suite. Et on oublie que c'est le Christ qui est représenté derrière tout ça, qui organise l'ordre de placement des convives. Par la patience et l'amour, nous suivrons l'ordre prévu par Dieu sans nous préoccuper de l'apparence extérieure ou du camp, dira-t-on. L'humilité ne sera pas soumise à une violente contradiction, mais gagnera en condescendance et en patience. C'est-à-dire que celui qui s'est mis à la dernière place sera élevé, et celui qui s'est mis à la première place sera abaissé. L'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux. Un homme qui est capable de se mettre à genoux devant son Dieu pour adorer son Seigneur et son Dieu est un homme qui va devenir grand devant Dieu. Au contraire, un homme qui refuse de s'agenouiller devant son Dieu est un homme qui va devenir méprisable devant Dieu. Et ça, c'est le monde moderne. Dans l'église de Vatican II, on ne se met plus à genoux. On ne se met plus à genoux parce qu'on refuse de reconnaître que Dieu est notre supérieur. En voyant le commentaire de Saint Bède, le Vénérable, en haut de la page 31, mystiquement, lorsque nous sommes invités à la fête du mariage de l'Église du Christ, unis avec les membres de l'Église par la foi, prenons garde à ne pas nous vanter de nos mérites, mais nous considérons plus élevés que les autres. Mais plus nous sommes grands, plus nous devons nous humilier. Le Seigneur rétrogradera celui qui est plein de lui-même, afin que nous n'ayons pas d'orgueil à cause de nos travaux. Donc souvent, on voit chez les pères de l'Église qu'à chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ a une parabole des invités à la noce, c'est très fréquent chez notre Seigneur, différentes formes. Les invités à cette noce, le père de famille qui invite les gens à venir à la noce de son fils, eh bien ce père de famille, c'est Dieu le Père. Le fils qui se marie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, donc la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui unit sa divinité, il est Dieu, à notre humanité. Tout en étant Dieu, il devient homme. C'est l'incarnation. Donc ce mariage représente l'incarnation. Et tous ceux qui refusent, qui sont mis à la dernière place, parce qu'ils ont voulu se mettre à la première place, sont tous ceux qui refusent finalement l'incarnation. Alors, n'oubliez pas cette phrase de Saint Bède, « Plus nous sommes grands, plus nous devons nous humilier. » Malheur à l'homme qui n'est pas capable de se mettre à genoux. Malheur au père de famille qui est incapable de se mettre à genoux à la prière du soir. L'enfant n'aura que mépris pour son père. Au contraire, quand l'enfant voit le père de famille qui se met à genoux humblement à la prière du matin, prière du soir, en famille, à ce moment-là, l'enfant va avoir une connaissance de la grandeur de Dieu. Parce qu'il va se dire, si mon père, qui a l'autorité dans la maison, se met à genoux devant Dieu, alors c'est que Dieu est encore plus grand que mon père. Et comme je dois avoir un respect très grand pour mes parents, pour mon père, eh bien je dois avoir un respect encore plus grand, évidemment, pour Dieu, puisque mon père se met à genoux devant lui. Lorsque le Seigneur arrive, disent les pères, il commandera à l'humble de monter plus haut, le bénissant sous le nom d'ami. Verset 10. Quand vous aurez été invité, allez, mettez-vous à la dernière place, afin que lorsque celui qui vous a invité sera venu, il vous dise, mon ami, montez plus haut. À partir du moment où on s'assoit avec humilité à sa place, nous devenons les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est l'ami de Dieu? L'ami de Dieu, c'est celui qui suit la volonté de son Père. C'est dans cette mesure où le bon Dieu, pour nous faire monter plus haut, il va faire monter plus haut quelqu'un qui accepte avec humilité d'obéir à la loi du bon Dieu. Et quelqu'un qui, dans son orgueil fou, refuse d'obéir à la loi du bon Dieu, ben le bon Dieu ne pourra absolument pas le faire monter plus haut parce que son orgueil va l'empêcher de monter. L'orgueil, c'est un terrible fil à la patte. Malheur aux gens orgueilleux. J'ai remarqué, c'est triste à dire, mais c'est comme ça que plus les gens n'ont rien à donner, plus ils sont orgueilleux. Et au contraire, plus les gens ont quelque chose à donner, plus ils sont humbles. Parce qu'ils réalisent que ce qu'ils ont à donner ne vient pas d'eux, mais est un don de Dieu qu'ils doivent mettre au service du prochain. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères. Celui qui s'exalte à cause de ses mérites sera abaissé par le Seigneur, mais celui qui s'humilie à cause de ses miséricordes sera exalté. Et celui qui ne veut pas s'humilier par lui-même sera humilié par notre Seigneur. Et il vaut beaucoup mieux être humilié, s'humilier soi-même, que d'attendre d'être humilié par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parabole, c'est-à-dire celui qui, en rentrant dans la salle du festin, se met par lui-même à la dernière place, il s'humilie par lui-même, alors il va être élevé par notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, celui qui refuse de s'humilier, qui va se mettre à la première place, il va être rétrogradé par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre dans l'Église de Vatican II. Ils ne comprennent pas ça parce que, dans l'Église de Vatican II, l'homme devient Dieu. Et l'homme devenu Dieu tombe en adoration devant lui-même. Alors, il est indéboulonnable. Il est incapable de se remettre à sa véritable place. Et c'est pour ça que dans l'Église moderne, on perd la foi tellement facilement. Donc les docteurs de la loi, disent les pères, considéraient avoir droit aux plus gros hauts honneurs et se battaient pour les obtenir comme aujourd'hui les femmes de rang et les hommes au petit cerveau. J'aime bien cette expression des pères, un homme au petit cerveau. Plus le cerveau de l'homme est petit, plus il se croit grand. Et au contraire, plus le cerveau de l'homme est grand, plus cet homme est réalisé à quel point il est petit. Donc les gens qui veulent être à la première place sont en général les gens qui sont les moins intelligents. Au contraire, celui qui se met par lui-même à la dernière place dans la salle du festin va manifester son intelligence. La vraie gloire, disent les pères, est celle qui est donnée et non pas celle qui est recherchée. Votre place à table vous obtiendra gloire ou obscurité, comme les étoiles qui disparaissent selon leur position dans le ciel. Car un homme n'est pas distingué par sa position, mais plutôt la position par l'homme. L'honneur, comme l'ombre donnée par le corps, suit celui qui la fuit, mais s'enfuit de celui qui la suit. Très belle phrase des pères, je répète. L'honneur suit celui qui la fuit, mais s'enfuit de celui qui la suit. Donc l'homme orgueilleux va être humilié. L'homme humble, au contraire, va être placé à la première place. Donc l'honneur va être donné à celui qui fuit naturellement l'honneur, et au contraire, celui qui cherche l'honneur va devoir abandonner cet honneur, parce qu'il va être humilié devant tout le monde. On voit très bien, surtout dans les premiers siècles de l'Église, après la paix de Constantin, comment l'Église allait chercher, pour faire ses premiers évêques, l'Église allait chercher souvent des moines, des ermites, qui vivaient dans la forêt, qui vivaient dans la mendicité la plus totale, dans l'abandon le plus total, qui étaient d'humbles moines, et le bon Dieu allait chercher pour les bombarder littéralement évêques, parce qu'ils avaient besoin d'hommes de Dieu. Dans la mesure où je suis un homme de Dieu, que je vais pouvoir être appelé par notre Seigneur Jésus-Christ à la première place, ça veut dire à diriger les âmes qui me seront confiées. Donc l'homme à qui notre Seigneur Jésus-Christ dit « Mon ami, montez plus haut », eh bien c'est en fait l'évêque qui est désigné là. C'est l'évêque qui est déplacé de la dernière place à la première place pour être à la tête de son troupeau. Ceux qui n'ont rien gardé, déjà tout donné, même leur propre volonté, ne peuvent pas descendre plus bas. Ils sont en repos, car leur humilité n'est pas limitée comme celle des autres hommes par telle ou telle action. Elle dure autant que la vie. C'est la mesure où j'accepte de me conformer à la loi divine que le bon Dieu va pouvoir m'utiliser comme un instrument. Et à ce moment-là, je vais devenir un instrument du bon Dieu, faire un travail extraordinaire. Et si au contraire, je veux utiliser mes propres forces, eh bien, le bon Dieu verra qu'il ne peut rien faire avec moi parce que je n'ouvre pas la porte de mon âme pour laisser le bon Dieu rentrer dans cette âme. Et donc, le bon Dieu va m'éloigner et va me mettre à la dernière place parce que il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi dans le sens qu'il se rend compte qu'il n'y a pas cette disponibilité qu'on doit trouver chez le catholique. Oui. Je voyais très bien ça au séminaire. Parfois, des séminaristes qui avaient des idées de grandeur. Ils disent, quand je serai prêt, je vais avoir tel poste, aller dans tel pays, avoir telle fonction. Et Mgr Lefebvre savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à des gens comme ça. Au contraire, quand il avait devant lui des séminaristes qui étaient humbles, qui étaient capables de dire, mon Dieu, mon Père, que votre volonté soit faite, moi j'irai où vous m'envoyez. Je suis pas très malin, mais j'irai où vous m'envoyez, même si vous m'envoyez un pays éloigné, un climat difficile, avec des langues nouvelles à apprendre, eh bien, je sais que vous me donnerez les grâces d'État. Et à ce moment-là, Mgr Lefebvre savait qu'il pouvait utiliser ces vocations-là et les envoyer là où il en avait besoin. C'était terrible parfois d'avoir des vocations de jeunes prêtres qui refusaient catégoriquement leur première nomination ou leur nomination parce que justement ils voulaient se sanctifier là où ils voulaient être et pas là où bon Dieu voulait qu'ils soient. Non pas là où leur supérieur voulait qu'ils soient. Vous voyez, l'image que j'utilise très souvent en sermon, parce qu'elle est belle, pas de moi, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le jardinier de mon âme. Eh bien, il plante dans son jardin les différentes fleurs qu'il veut avoir dans le jardin, il les plante là où il veut, lui. Et s'il a décidé de vous mettre à tel endroit dans le jardin, eh bien, il faut fleurir là où le bon Dieu vous a placé. Et si cette fleur doit se développer en 6 mois ou en 7 mois, eh bien, il faut respecter ce temps de formation. C'est pas en tirant sur la fleur, comme disait Saint François de Sales, c'est pas en tirant sur la fleur qu'elle va pousser plus vite. Hein. Et donc, encore une fois, on voit ici la nécessité de la vertu d'humilité. C'est la conclusion de cette parabole. Quiconque s'élève sera humilié, mais quiconque s'humilie sera élevé. Donc, l'humilité est vraiment la clé de voûte de la sanctification. Il n'y a pas de sainteté possible sans humilité. Alors, demandons au bon Dieu cette grâce de l'humilité. Cette humilité est nécessaire au salut. Voyons les versets 12, 13 et 14 du chapitre 14 de Saint-Luc. Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque vous donnez à dîner ou à souper, n'appelez pas vos amis, ni vos frères, ni vos parents, ni vos voisins riches, de peur qu'ils ne vous invitent à leur tour et ne vous rendent ce qu'ils ont reçu de vous. Mais lorsque vous faites un festin, appelez les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et vous serez heureux de ce qu'ils n'ont pas le moyen de vous le rendre, car cela vous sera rendu à la résurrection des justes. Encore une fois, oui, là on voit la vertu d'humilité. Appeler les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, c'est ceux qui sont représentés. Ces gens représentent la vertu d'humilité. Ceux qui ne croient pas en leur propre force, le pauvre, il peut rien faire par lui-même, il est obligé de compter sur la générosité du riche. L'estropié peut pas se déplacer par lui-même, il est obligé de compter sur la personne qui va l'aider. Le boiteux peut pas marcher par lui-même, il est obligé de compter sur sa canne. Et l'aveugle a besoin de son guide. Eh bien, c'est pareil pour nous. Commentaire de Saint Jean de Chrysostome. Ne pratiquons pas la gentillesse avec les autres dans l'espoir d'un retour, car ce motif froid fait disparaître les amitiés. Quand vous invitez les pauvres, Dieu, qui n'oublie jamais, sera votre débiteur. Plus notre frère est humble, plus le Christ vient à travers lui nous visiter. Évidemment, il faut pas comprendre de travers cette phrase des pères de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ invite les pauvres à son repas de fête, c'est-à-dire à la vertu, au miracle de l'incarnation, mais le pauvre doit suivre les lois et se mettre là où le bon Dieu l'a voulu. Et donc la première condition, évidemment, pour le pauvre, pour rentrer dans la salle du festin, invité par le roi, qui célèbre les noces de son fils, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation, c'est avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître dans le Fils de Dieu fait homme, le roi du ciel et de la terre. Et au contraire, si je refuse, avec orgueil, de reconnaître l'autorité du bon Dieu, ben, je peux absolument pas rester dans la salle du festin. Donc, il faut pas comprendre de travers cette phrase. Ça veut pas dire que il faut accepter les pauvres sans condition. Non. Le serviteur demande aux pauvres de rentrer dans la salle du festin, mais pour être à une place déterminée et pas là où ils veulent être. N'arrête pas de parler aujourd'hui de l'église des pauvres, l'église des pauvres, l'église des pauvres. Et on voit par exemple dans la situation actuelle avec ces migrants qui arrivent de partout pour envahir l'Europe, eh bien, il est évident que le bon Dieu ne va pas nous demander d'accepter toute la misère de la planète quand on sait très bien que ces gens vont littéralement détruire la France catholique ou ce qu'il en reste. Et donc, il y a un devoir de protection, de protéger son pays, de protéger sa famille. Bon, bien sûr, il faut aussi d'aider les gens pauvres, mais avant de commencer à aider la misère des autres peuples, commençons par voir notre propre misère. Il y a suffisamment de misère en France, avec ces millions de personnes qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Commençons par nous occuper de ces personnes avant d'aller chercher à accepter la pauvreté, la misère de la planète. C'est pas ce que nous demande le bon Dieu, c'est évident. Mystiquement, dans un texte d'Origène, celui qui méprise la vaine gloire convie les pauvres au banquet spirituel. Donc les ignorants, pour qu'ils puissent être enrichis, les faibles, sont ceux qui ont une conscience chargée, donc pour les guérir. Donc Dieu, en invitant ces pauvres, les ignorants à la salle du festin, donc veut leur enseigner ce qu'ils ne savent pas. Dieu, en acceptant les faibles dans la salle du festin, veut guérir ces faibles, leur donner une force surnaturelle. Les boiteux sont ceux qui s'éloignent de la raison. Eh bien, le bon Dieu, le chef du banquet, donc veut recevoir aussi les boiteux, mais pour qu'ils s'alignent sur le chemin. Les aveugles qui sont incapables de discerner la vérité, eh bien le chef du festin va inviter aussi les aveugles pour qu'ils puissent contempler la vraie lumière. Donc l'ignorance représente celui qui ne connaît pas son catéchisme. Le faible représente celui qui vit dans le péché parce qu'il n'a pas la force que donnent les dons du Saint-Esprit. Les boiteux sont ceux qui sont constamment en train d'hésiter, ils dansent d'un pied sur l'autre parce qu'ils ont une jambe plus courte que l'autre, ils sont incapables de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Les aveugles sont ceux qui refusent de voir la vérité. Et bien le bon Dieu va s'occuper de tous ces gens-là, il va s'occuper des ignorants, des faibles, des boiteux, des aveugles, pour les rendre à la santé spirituelle. Donc la maladie spirituelle correspond à une santé spirituelle. Donc la récompense donnée par les hommes est transitoire et sans valeur, excluant la récompense spirituelle donnée par Dieu. Si vous cherchez les deux récompenses, vous les obtiendrez toutes les deux, mais de moindre intensité, car l'une interfère avec l'autre homme. C'est-à-dire, plus on cherche les valeurs spirituelles, plus on comprend que les valeurs physiques, les choses physiques sont moins importantes. Et au contraire, plus je veux me lancer à la recherche des biens matériels, plus j'aurai du mal à mettre de la place dans mon âme pour les choses spirituelles. Mais si vous ne recherchez que la récompense divine, même si vous recevez la récompense humaine sans l'avoir désirée, le don divin sera complet sans diminution. Donc plus on reçoit de choses spirituelles, plus on désire ces choses spirituelles. Au contraire, plus on reçoit de choses de biens matériels, puis on se dégoûte de ces biens matériels. Vous voyez? C'est pas parce qu'on est rempli de biens matériels que ça va nous rendre plus heureux pour autant, parce qu'il manque toujours quelque chose. Regardez le monde moderne, on le voit très bien dans le monde moderne. Les gens sont couverts de biens matériels, sont malheureux comme des pierres. Pourquoi? Parce qu'il leur manque, l'essentiel, ils ne se préoccupent plus de leur âme. Passons à la page 32. Et ici, il y a quelques exemples. À propos des invités au festin, quelques exemples des grands saints, comment ils pratiquaient la charité. Saint Grégoire le Grand, par exemple, avait souvent 12 mendiants à sa table, page 32. Il fut récompensé un jour en recevant le Christ lui-même sous les traits d'un pauvre. Saint Louis de France, roi de France, non content de recevoir chaque jour à sa table 120 mendiants et même 200 mendiants les jours de fête, les servait lui-même fréquemment et lavait même leurs pieds. Saint Louis le Mineur, évêque de Toulouse, suivait l'exemple de son oncle Saint Louis. Sainte Edwige, duchesse de Pologne, et sa nièce Sainte Élisabeth, fille d'André, roi de Hongrie, encore une faute d'orthographe là, qu'il faut que je corrige, fille d'André, roi de Hongrie, qui nourrissait 900 pauvres chaque jour, reçurent une riche récompense divine en faveur et en grâce. Oui, on voit comment ces saints rois, ces saints monarques donnaient l'exemple de la charité à l'égard des miséreux. Il y avait la misère à ce moment-là, peut-être moins qu'aujourd'hui, c'était pas le même genre de misère, parce que la charité de l'Église était partout. Pratiquement dans tout, il y a des monastères partout dans la France, était couverte comme d'un blanc manteau par les monastères, et dans chaque monastère il y avait une partie à l'extérieur de la clôture où les pauvres de passage pouvaient toujours venir coucher. Ils recevaient un bol de soupe, un bout de pain en général, et pouvaient passer la nuit dans la paille pour avoir un minimum et se protéger des éléments. Et toutes ces choses ont disparu. C'est à la Révolution. Lorsqu'à la Révolution, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, la séparation, la laïcisation, si vous voulez, de la France, littéralement. Laïcisation, il a commencé en 1789. Eh bien, d'un seul coup, la République française a mis dehors toute la charité de l'Église. Et tous les hôtels Dieu, la charité de l'Église, qui était une activité énorme, l'activité de la miséricorde était faite exclusivement par l'Église au Moyen-Âge, tout ça a été mis dehors, et d'un seul coup, l'État s'est retrouvé à devoir nourrir ces miséreux, était incapable de le faire, et ça a été l'arrivée de la misère en France, on voit très bien avec la Révolution, et après, avec la Révolution industrielle du 18e et 19e siècle, la fin du 18e, et surtout tout le 19e siècle, on voit avec la révolution industrielle, le fait que l'homme va devenir l'esclave du capital, si vous voulez, et à ce moment-là, ça va être la destruction de toute la charité de l'Église, parce qu'il n'y aura plus, l'Église ne sera plus là pour s'occuper de la charité. L'Église catholique est la seule capable de donner une charité gratuite. Le monde moderne donne une charité, mais c'est toujours une charité intéressée. Avançons, voyons Saint Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table avec Jésus, ayant entendu ces paroles, lui dit « Heureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu ». Alors Jésus lui dit, un homme fit un grand souper, invita de nombreux convives. Et on retrouve une autre parabole du souper. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux invités de venir parce que tout était prêt. Mais tous, unanimement, commencèrent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté une terre, il est nécessaire que j'aille la voir. Je vous en prie, excusez-moi. Le second dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je vous en prie, excusez-moi. Un autre dit, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne puis venir. Et à son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. Alors le père de famille irrité dit à son serviteur, allez promptement sur les places dans les rues de la ville et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit ensuite, Seigneur, ce que vous avez commandé a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, allez dans les chemins et le long des haies et contraignez les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc on va voir avec les pères de l'Église l'interprétation, c'est toujours la même chose. Le banquet, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui demande à tous les hommes de venir rejoindre ce banquet. Ce banquet représente l'Église. Et il y a d'abord des gens qui étaient invités en priorité. Ceux qui avaient été invités en priorité au banquet céleste, c'est-à-dire aux conséquences de l'incarnation, encore une fois, c'est un banquet de mariage, donc c'est le symbole de l'incarnation, l'union de l'humanité et de la divinité à notre Seigneur Jésus-Christ. Les premiers qui avaient été invités, c'est le peuple élu. Le peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif. Et ils vont trouver des excuses. On va voir un petit peu le sens de ces excuses. Et ils vont utiliser ces excuses pour ne pas venir. Alors, le serviteur va insister, il faut venir, tout le monde vous attend. Il refuse de venir. Voyant le refus du peuple juif de venir prendre sa place dans la grande salle de souper, alors notre Seigneur Jésus-Christ va aller chercher d'autres invités. C'est ce qu'on appelle la substitution. C'est une chose qui ne passe plus du tout dans le monde moderne. Et notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église en parlent très souvent dans l'Évangile. Donc ces nouveaux invités qui vont prendre la place de ceux qui étaient invités en premier, ça représente la deuxième congrégation qui va prendre la place de la première congrégation. Donc les premiers invités, c'est la synagogue. Les deuxièmes invités, le groupe des deuxièmes qui est invité en second lieu, représente l'Église catholique. Et les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, représentent tous les pécheurs. C'est les pécheurs qui doivent se convertir pour pouvoir remplir. Et notre Seigneur Jésus-Christ va littéralement obliger, il va contraindre ces gens d'entrer pour que sa maison soit remplie. Bon Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est que sa maison soit pleine. Et c'est pour ça qu'il va envoyer ses apôtres dans le monde entier, aller baptiser, prêcher. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc en bas de la page 32, voyons les commentaires des pères de l'Église sont assez nombreux pour ces versets-là. Encore un passage qui a été longuement commenté par les pères. Qui est le pain du royaume de Dieu, sinon celui qui a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Donc c'est ici déjà le symbole du pain transsubstantiel, c'est-à-dire du pain eucharistique, changement du pain, la substance du pain, la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas notre bouche qu'il faut ouvrir, disait Père, mais notre cœur. Le Créateur de toutes choses, le Père de la gloire, le Seigneur, a préparé le grand souper qui se terminera dans le Christ. Vous voyez, encore une fois, on retrouve l'image de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ est le grand supérieur de ce repas. Ce repas de mariage, ce repas de noces représente l'union de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa divinité, avec notre humanité. Il prend sur lui notre humanité, donc il prend sur lui nos péchés. Et cela représente aussi le catholique qui accepte de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion. C'est ce qui est représenté là. Donc le Seigneur a préparé le grand souper qui se terminera dans le Christ. Ce souper, c'est la Sainte Messe. La Sainte Messe qui est représentée là. Et donc tout le monde est invité à cette Sainte Messe, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, et ils vont être guéris par notre Seigneur Jésus-Christ. Les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux représentent les pécheurs. Ils vont venir à notre Seigneur Jésus-Christ qui va les guérir, qui va les sortir du péché, et leur rendre leur dignité première d'enfant de Dieu. Le Christ, dit saint Grégoire, organise un grand banquet, nous ayant préparé les pleines joies des douceurs éternelles. Beaucoup sont invités, mais peu viennent, car souvent ceux qui lui sont sujets par la foi s'opposent à son banquet éternel par leur vie. Pour pouvoir entrer dans la salle du banquet, il faut vivre en état de grâce. Ceux qui refusent de vivre en état de grâce ne sont pas acceptés, ne sont pas tolérés dans la salle du banquet. C'est ça qu'il faut impérativement comprendre. C'est toute la différence entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. L'Église catholique enseigne, tout le monde est invité à la salle du banquet. Mais pour pouvoir rentrer dans la salle du banquet et participer à ce banquet céleste, il faut se convertir. Il faut devenir enfant de Dieu par le baptême. C'est pour cela que les apôtres sont envoyés dans le monde entier pour faire des enfants de Dieu. Tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu, contrairement à ce que raconte Bergoglio en longueur de journée. Les hommes sont tous des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. C'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Et le bon Dieu demande qu'une seule chose, c'est que tous les hommes qui meurent de faim dans toute leur misère, tous ces estropiés, tous ces pauvres qui n'ont pratiquement rien à manger, ces pauvres, ces estropiés, ces boiteux, ces aveugles, représentent des pécheurs. Et qui sont invités dans la salle du banquet, mais pas pour rester tels qu'ils sont. Ils sont invités à la salle du banquet pour pouvoir changer. Et ils changent en retrouvant l'état de grâce. En trouvant l'état de grâce, d'abord par le baptême, et ensuite par les sacrements, le sacrement de pénitence et la Sainte Eucharistie, ils vont devenir avoir cette force. Et à ce moment-là, ils ne seront plus ni pauvres, ni estropiés, ni boiteux, ni aveugles. Ils vont avoir cette santé spirituelle donnée par le bon Dieu, vont avoir cette richesse extraordinaire, cette santé extraordinaire donnée par la Sainte Eucharistie. Voilà ce que dit saint Grégoire le Grand. Le Christ organise un grand banquet, nous ayant préparé les pleines joies des douceurs éternelles. Beaucoup sont invités, mais peu viennent, car souvent ceux qui lui sont sujets par la foi s'opposent à son banquet éternel par leur vie. La foi ne suffit pas. Attention, le démon croit. Le démon croit. Le démon tremble devant Dieu. Parce qu'il sait que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Mais ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Celui qui dit Seigneur, Seigneur, celui qui a la foi, mais qui n'a que la foi. Il faut écouter la parole de bon Dieu, la foi, et la mettre en pratique, la charité. Et celui qui peut s'installer à table du festin, c'est celui qui, à la foi, rajoute la vertu de charité. Et en rajoutant la vertu de charité, eh bien, dès que j'ai la charité en moi, c'est-à-dire l'état de grâce, la charité c'est l'habitation en moi de la Sainte Trinité, dès que j'ai l'habitation en moi de la Sainte Trinité, la grâce sanctifiante, la grâce habituelle, à ce moment-là, je ne suis plus pauvre, ni estropié, ni boiteux, ni aveugle, je deviens fort par la grâce du bon Dieu. J'aime beaucoup cette phrase des pères, je la répète, beaucoup sont invités, mais peu viennent, car souvent ceux qui lui sont sujets par la foi s'opposent à son banquet éternel par leur vie. Rappelez-vous l'enseignement de Luther. Pêche fortement, mais crois plus fortement encore. Pêche fortement, c'est-à-dire, vis dans le péché complet, t'occupe pas de la charité, l'important, tu seras sauvé, c'est la foi, tu seras sauvé par la foi. Attention, la foi sans la charité est une foi morte. Passons à la page suivante. Page 33. Il y a des notes intéressantes ici des pères de l'Église. Les pères vont donc expliquer, entre autres, ils ont beaucoup insisté sur les différentes excuses données par les gens qui refusent de venir. Alors, ça représente beaucoup de choses. Ces gens qui étaient invités d'abord, qui refusent de venir, je vous l'ai déjà dit, représentent le peuple juif. Mais représentent aussi tous ceux qui sont emmêlés dans toutes les affaires du monde et qui, à cause du poids des trois concupiscences, n'arrivent pas à venir n'arrivent pas à rentrer dans la salle du banquet parce qu'il y a la concupiscence des yeux qui travaille, la concupiscence de la chair, l'orgueil, et à cause de ces trois concupiscences, eh bien, ils ne peuvent pas rentrer dans la salle du festin parce que pour rentrer dans la salle du festin, il faut trouver l'état de grâce, c'est-à-dire qu'il faut couper les concupiscences. Et les pères vont expliquer donc que certains trouvent comme excuse, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne peux pas venir, ben ça représente, on va voir ça tout à l'heure, la concupiscence de la chair. Celui qui dit j'ai acheté 5 paires de bœufs, ben ça représente la concupiscence des yeux. Celui qui dit j'ai acheté une terre, et à cause de ça je ne peux pas venir, et ben c'est la concupiscence de l'orgueil de la vie. Donc on va voir un petit peu tout ça, la page 33. Un très beau texte des pères. On voit bien ici, page 33 en haut de la page, on voit bien ici les différences qui existent entre les délices du corps et ceux de l'âme. Car les délices corporels, s'ils sont absents, provoquent un grand désir de les avoir. Mais une fois possédés et dévorés, nous passerons vite de satiété à dégoût. On voit très bien quand on mange trop. Alors on a faim, alors on mange, on se jette sur la nourriture, comme la misère sur le pauvre monde. On se jette sur la nourriture, on mange trop, et du coup on est malade. Bon, et donc ces délices corporels, disent les pères, s'ils sont absents, provoquent un grand désir de les avoir, mais une fois possédés et dévorés, nous passons vite de satiété à dégoût. Si on utilise ces délices corporels, la nourriture matérielle, de façon déraisonnable, on devient malade, on tombe malade. Ça représente justement tous ceux qui s'attachent beaucoup trop aux choses matérielles et sont incapables de laisser de la place dans leur âme pour les choses spirituelles. On voit très bien dans le monde moderne qui nous couvre de choses matérielles pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses spirituelles. J'ai déjà expliqué ça souvent. Les délices spirituels, au contraire, nous répulsent quand nous ne les possédons pas. Mais quand nous les avons, nous les désirons encore davantage. On a une espèce de peur, panique des délices spirituels. Pourquoi ? Parce qu'on sent très bien que les délices spirituels, ils arrivent avec la croix. Alors on refuse la croix, la peur de la croix. On ne veut pas des délices spirituels à cause de la croix qui est unie à ces délices spirituels. Bien, il faut comprendre que on a un peu peur naturellement des délices spirituels, mais une fois qu'on commence à goûter des joies spirituelles, à ce moment-là, on les désire de plus en plus. Et on voit très bien quand on rencontre parfois des gens qui ont tout reçu sur le plan matériel, qui ont toutes les délices du corps, qui sont vides des délices de l'âme, ils sont malheureux comme des pierres. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse être heureux justement sans cette profusion de choses matérielles. Certes, il faut un minimum. On ne va pas se dire, on ne s'occupe plus de notre corps, on ne s'occupe plus de nourrir nos enfants, on ne s'occupe plus de nourrir nos corps, on ne s'occupe que de l'âme. Non, il faut aussi s'occuper des choses matérielles. Mais comprendre que les choses matérielles ne sont qu'un tremplin pour monter aux choses spirituelles. Et quand on rencontre des gens qui sont des gens extrêmement riches, qui ont toutes les facilités matérielles du monde, on se rend compte que ces gens-là ont une pauvreté d'âme absolument invraisemblable. Leur âme est totalement vide. Il m'est arrivé de parler à des gens comme ça. Plus exactement, c'est eux qui venaient me parler. C'est bizarre, mais j'ai remarqué que, tout quand j'étais aux États-Unis, où il y a comme une certaine richesse matérielle, en soutane dans les aéroports, en général dans les aéroports, il y a souvent des gens qui ont une certaine aisance financière, eh bien, ils étaient attirés d'une certaine façon par la soutane. Parce que cette soutane représentait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et donc, parfois, il m'arrivait d'avoir des gens qui venaient voir, mais m'interroger en me disant, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais ils me posaient toutes ces questions pour essayer de savoir pourquoi j'étais en soutane. Et j'essayais de leur expliquer, ils avaient mal fou à comprendre parce qu'il y avait un aveuglement, une cécité spirituelle terrible chez eux. Et j'avais remarqué que quand ils essayaient de comprendre la vie qu'un prêtre catholique avait, la première question qu'ils posaient, c'était toujours la question sur le salaire. Mais vous êtes religieux, vous êtes prêtre, ben oui, vous êtes dans une société religieuse, ben oui, mais combien vous êtes payé? Première question, combien vous êtes payé? Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse donner sa vie au bon Dieu sans une récompense matérielle sonnante et trébuchante. Première question qu'il posait, c'était toujours la même, combien vous payez? Quand je leur disais, mais j'ai pas de salaire, le prêtre travaille pour le bon Dieu, le salaire on l'aura après au ciel. Qu'on n'a pas de salaire, on n'a pas de salaire régulier. La société religieuse dans laquelle nous sommes s'occupe de nous, nous donne le vivre et le couvert, mais on n'a pas de salaire. Ils ouvraient des yeux ronds, ils étaient incapables de comprendre ça. Et puis ils posaient toute une série de questions, mais comment vous faites pour vivre? Vous avez une grosse voiture super luxueuse? Non, vous avez un grand écran de 3 mètres de large dans votre salle à manger? Non. Vous avez une grande piscine? Non. Et vous êtes heureux? Oui. Alors ça, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et parfois, on sentait une espèce de tristesse chez eux. Il y avait une espèce, finalement, ils ne voulaient pas l'avouer, il y avait une espèce de jalousie chez eux. Ils se rendaient compte qu'on avait une joie qui venait du fait que nous étions avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je leur posais la question, mais excusez-moi, mais vous, combien vous faites? Combien d'argent, de salaire vous avez tous les mois? Ils ne voulaient jamais répondre à ma question, mais manifestement, c'était des gens qui n'avaient pas de problème de fin de mois. Je leur disais, mais vous avez une grande maison, vous avez une grande télévision, vous avez une grande voiture, vous avez une grande piscine, vous avez tout. Vous êtes heureux? Je regardais droit dans les yeux quand je leur posais cette question. et les yeux baissés, les yeux baissés. Et il reconnaissait parfois, dit, on a tout, mais finalement on n'a rien. Et il se rendait compte, après coup, qu'ils avaient les mains vides. C'était terrible, parce que je me disais, ces gens vont mourir, vont passer un jour devant Dieu, et qu'est-ce qu'ils auront donné? Rien. Quand vous allez mourir, vous allez présenter votre téléphone portable qui est dans votre poche, et vos millions dans votre dans vos poches, vos lingots d'or dans vos poches, les millionnaires, qu'est-ce qu'ils vont avoir à présenter au bon Dieu? Un téléphone portable, une grande voiture, une grande télévision, un hélicoptère privé, c'est ça qu'ils vont présenter au bon Dieu? Ils ont les mains vides. Oui. Alors, qu'est-ce que représente ce souper? Oui, on retrouve ici les choses que je vous ai déjà expliquées. Je reprends les explications des pères. Je vous ai déjà dit que ce souper représentait l'incarnation. Et c'est ce que m'ont expliqué ici les pères, en haut de la page 33. Que représente ce souper? Pour certains, c'est l'incarnation du Verbe de Dieu, la prédication de son évangile et la rédemption qu'il nous apporte. Notre Seigneur nous apporte sa rédemption par son humanité unie à sa divinité. C'est un dîner pour l'Église militante, un souper pour l'Église triomphante. Rappelez-vous les trois parties de l'Église. L'Église militante, l'Église des soldats, Milès c'est le soldat, c'est l'Église d'ici-bas. L'Église triomphante, donc, qui est citée ici par les pères de l'Église, c'est l'Église du paradis. Il faut rajouter l'Église souffrante. L'Église souffrante, c'est l'Église du purgatoire. Donc il y a trois parties dans l'Église. Une partie ici-bas, l'Église militante, une partie au ciel, l'Église triomphante, et une partie au purgatoire, l'Église souffrante. Soldats, disent les pères, dînons maintenant et nous souperons dans le monde d'en haut. L'Église militante, en effet, aspire à atteindre l'Église triomphante du ciel. Donc cette salle de banquet, je suis invité pour l'incarnation du Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui se fait homme pour mourir pour moi sur la croix le vendredi saint, et ressuscité le troisième jour, monté au ciel le jour de l'Ascension, 40 jours après Pâques, mais qui monte au ciel pour m'y conduire. Donc, en participant à ce souper, en acceptant de vivre en état de grâce pour pouvoir participer à ce souper par la vertu de charité, j'ouvre mon âme au paradis qui m'est préparé, et je vais déjà avoir une vision de ce paradis par l'incarnation du Verbe de Dieu, et cette incarnation du Verbe de Dieu nous amène à la Sainte Eucharistie. C'est le deuxième point, ici cité par Saint Cyrille. Donc ce souper ne représente pas simplement l'incarnation du Verbe de Dieu, je viens d'expliquer, mais représente aussi la Sainte Eucharistie. L'homme et Dieu et Dieu le Père qui a préparé pour nous un grand souper dans le Christ, car il nous a donné son propre corps à manger. C'est la raison pour laquelle l'Église a pris le choix de cette parabole pour la fête du Saint-Sacrement. Donc le souper représente non seulement l'incarnation, mais la conséquence de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a donné sa chair à manger. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous, pour beaucoup, pour le salut du monde. Donc, le souper représente l'incarnation, représente aussi la Sainte Eucharistie. Et donc, la fête du Saint-Sacrement, donc on a, l'Église a pris justement cette parabole pour bien nous montrer que c'est la Sainte Eucharistie qui est représentée derrière ce souper. Et enfin, un troisième sens, le souper représente le paradis, donc l'Église triomphante, la joie et la gloire du paradis. On l'appelle souper car il est donné le soir, à la fin du monde, quand la vie et ses épreuves sont terminées. Il sera notre seul éternel rafraîchissement et douceur. Une fois entré, personne ne sera plus mis dehors. Oui, il faut être entré. Une fois qu'on est rentré dans la salle du festin et que le chef du festin nous a fait monter de la dernière place à la première place, à ce moment-là, la porte nous est ouverte pour l'Église, rentrer dans l'Église triomphante, c'est-à-dire le paradis. Mais ceux qui ont refusé de rentrer, c'est-à-dire qui refusent de chercher l'état de grâce, ils vont rester dehors. Tous ceux qui ont refusé de venir, appelez-vous le serviteur qui est envoyé aux invités, et tous unanimement commencent à s'excuser et trouver des excuses pour ne pas rentrer. Si tous ceux qui veulent pas, justement, écouter la parole du bon Dieu, se convertir, trouver l'état de grâce et retrouver la vertu de charité. Hein? Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Oui, c'est un évangile avec beaucoup de sens caché, beaucoup de richesse derrière. Voilà, donc je vais arrêter là, parce que ça fait déjà une heure que je vous parle, j'essaie de ne pas dépasser l'heure, et donc nous continuerons, si Dieu veut, la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.